Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous sommes dans un passage du catéchisme qui porte sur la Vierge Marie, le lien entre l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Et dans le numéro 721 et numéro 722, il est fait mention de deux expressions de tournure de l'Ancien Testament qui semblent faire référence à la Vierge Marie. Il y a le trône de la sagesse et puis la fille de Sion. Alors, d'abord, le trône de la sagesse, c'est sans doute en lien avec les textes de la sagesse de l'Ancien Testament ?
Oui, très certainement, cette idée de la sagesse créatrice, puisque la Vierge Marie est en quelque sorte créatrice, recréatrice, co-créatrice, comme on le dit à propos des parents qui sont co-créateurs, pro-créateurs de leurs enfants, et ils participent au mouvement de la création, hein, en cause bien sûr instrumentale, sans être la cause originelle, la cause première, qui est toujours Dieu qui est à l'œuvre. Et la Vierge Marie donc a un rôle, je dirais, de sagesse auprès du Père éternel. Le Seigneur m'a créé, déclare-t-elle, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes, déjà dès l'éternité, je fus établi. Dès le principe, avant l'origine de la terre, quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les œuvres aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté, etc. J'étais là. Et il y a un leitmotiv, j'étais là. Alors bien sûr, dans le projet, attention, la Vierge Marie n'est pas incarnée au ciel, mais elle est dans le projet divin. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que sinon, on pourrait affabuler, si vous voulez, et très vite tomber dans des expressions qui seraient excessives. Mais l'important, c'est de voir que la sagesse, dans le fond, est l'œuvre de Dieu, et que la Vierge Marie va être comme l'effet de cette sagesse. La sagesse a bâti sa maison. Eh bien, dans le fond, c'est ce qui arrive à l'enfantement de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Jésus bâtit sa maison dans le sein de la Vierge Marie, et la Vierge Marie est la première à être dans cette réalisation. La sagesse a bâti sa maison au chapitre 9. Elle a taillé ses 7 colonnes, et on voit donc cette admirable réalisation par rapport, bien sûr, à ce qui singe la sagesse, la folie des hommes, hein, qui contraste avec cette sagesse. On voit aussi le très beau discours de la sagesse dans le chapitre 24 de la sagesse, du Siracide, de l'Ecclésiastique. La sagesse fait son propre éloge au milieu de son peuple. Elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. Devant la puissance, elle montre sa fierté. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. J'ai habité dans les cieux, et mon trône était une colonne de nuée. On peut y voir déjà les prophéties de l'Assomption de la Vierge Marie, du triomphe de la Vierge Marie, et de l'attitude de révérence, je dirais, superlative que l'Église accorde à la Vierge Marie. On lui donne une vénération qui n'est pas du même ordre que l'adoration qui seule est réservée à Dieu, mais il y a une vénération vis-à-vis de la Vierge Marie qui est supérieure à tous les autres saints de l'histoire de l'Église. Et ce passage du Siracide au chapitre 24 montre bien la volonté de Dieu qu'elle soit magnifiée. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, dit la Vierge Marie au moment du Magnificat, au moment où Élisabeth, sa cousine, vient au devant d'elle quand la Vierge Vierge Marie s'approche pour la visiter à Ein Carême, selon la tradition, là où Élisabeth vivait avec Zacharie, et ayant déjà dans son sein le petit Jean-Baptiste dont nous parlions la dernière fois. Mmh. Et quand la Vierge Marie est reconnue par Élisabeth par cette parole extraordinaire où Élisabeth dit « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Vous voyez, il y a déjà l'appellation qui sera l'appellation la mère de Dieu, la plus habituelle de l'histoire de l'Église. Elle est mère de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que dit la Vierge Marie devant cette extraordinaire déclaration de sa cousine Élisabeth ? Eh bien, elle chante son cantique d'action de grâce, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse car le Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Extraordinaire, un chant où on voit bien que c'est de génération en génération que cette gloire de la Vierge Marie, qui est bien sûr relative à celle de son fils, qui est dans celle de son fils, mais que son fils veut pour elle.
Et grâce à Saint Luc, on a encore un autre titre qu'on peut donner à la Vierge Marie, c'est celui de fille de Sion. Parce que l'ange Gabriel adresse une salutation à la Vierge Marie, « Réjouis-toi », qui fait référence à des prophéties en lien avec la fille de Sion. Et est-ce que tu pourrais développer ce titre de fille de Sion ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est anodin ? Ou est-ce que ça a une valeur un particulière en lien avec la Vierge Marie ?
Oui, très certainement. La Vierge Marie est fille de Sion dans le sens des prophéties, puisque Sion, c'était là où la loi devait être donnée. Kimit Sion Tetzetora, ou Dvar Hashem Birushalayim, comme dit le prophète Isaïe, c'est-à-dire de Jérusalem sortira la loi, et Jérusalem, c'est Sion. Il faut bien comprendre, c'est le même nom, c'est un synonyme de Jérusalem, et cette loi a été donnée dans l'Ancien Testament à Jérusalem à travers le maintien, je dirais, de la royauté de David et de ses successeurs qui ont conservé précieusement ce don de la loi qui a été donc accordé à Moïse et à tout la suite au peuple d'Israël. Eh bien, à Sion, c'était le lieu où étaient conservés, en quelque sorte, dans le temple, les rouleaux de la loi. Une fois, d'ailleurs, il est arrivé dans l'histoire d'Israël qu'on a redécouvert des éléments de la loi. On s'est mis au moment de la réforme de Josias, il y a eu un élan extraordinaire de retour à la loi. Et avec la Vierge Marie, c'est la loi nouvelle qui apparaît. Et donc on comprend très bien qu'elle est un lien spécial avec Sion. D'ailleurs, la tradition dit que Joachim et Anne, ses parents, vivaient à Jérusalem et que la Vierge Marie a été confiée toute jeune enfant comme servante du temple. Elle a été confiée pour son éducation, pour qu'elle puisse connaître la parole de Dieu. Et d'ailleurs, si elle la connaît si bien, au moment, on le voit, où l'archange vient la visiter, où elle a cette visitation avec Élisabeth, c'est qu'elle est pétrie de cette parole de Dieu. Donc elle a une éducation, je dirais, aux sources mêmes de la révélation. La loi, la Torah, l'enseignement de Dieu est rentré dans son cœur. Elle en a connu tous les éléments et elle a connu toutes les prophéties qui la concernaient. Et bien sûr, en particulier, les prophéties des grands derniers prophètes comme Zacharie sur la fille de Sion. Et tout cela fait un ensemble tout à fait cohérent, je dirais, sur l'enracinement, je dirais, biblique dans l'Ancien Testament de la figure de la Vierge Marie qui n'arrive pas comme un aérolithe, une mère porteuse tout à coup, et qui serait envoyée pour que ça colle bien avec le plan de Dieu. Non, elle est fille de l'Ancien Testament d'une manière parfaite et elle mérite que l'on découvre à chaque fois que le nom Sion est marqué dans l'Ancien Testament, on peut voir tout à fait une présence, je dirais, de la Vierge Marie. On peut voir dans ces prophéties de Zacharie ou dans d'autres prophètes, eh bien, la fille de Sion qui est à l'œuvre.
Oui, c'est étonnant et intéressant. Si on lit rapidement l'évangile de Luc, on voit que l'ange salue la Vierge Marie. Mais si on est un peu éclairé sur l'Ancien Testament, en fait, cette salutation de l'ange, c'est comme si Luc nous disait je peux pas tout vous dire là en quelques lignes, mais je fais référence là à des tonnes et des tonnes de passages de l'Ancien Testament qui vous annoncent la venue et de la Vierge Marie et du Messie aussi. C'est étonnant de voir. On ne peut pas passer trop rapidement sur l'Évangile. Il est toujours fait référence à l'Ancien Testament.
Oui, et les paroles de saint Augustin sont très éclairantes lorsqu'il dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et que l'Ancien, patette, se révèle dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a des vases communicants entre les deux. Et il y a bien sûr un passage du moins au plus. Hein, les réalités de l'Ancien Testament sont éclairées d'une manière supérieure par les réalités du Nouveau Testament. Ce qui est un point aussi important de ne pas oublier dans ce beau dialogue qui nous relie à nos frères aînés dans la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
En cette fin d'entretien, on peut reprendre peut-être cette litanie de la Vierge Marie en disant « Trône de la sagesse, priez pour nous, fille de Sion, priez pour nous, tour de David, priez pour nous ».
Voilà, et avec toutes les litanies de Lorette, on pourrait prolonger. Nous laissons les auditeurs, bien sûr, ce soin d'aller aux litanies de Lorette pour comprendre combien ces litanies sont inspirées par l'Ancien Testament.
Merci frère Edouard.